Radio Stable.
Morning Edition from NPR
News.
France Inter, le 18-20.
C'est des très brefs moments. Il dit comme, comment ça va à l'école? Est-ce que t'as des bonnes notes? Comment ta mère va-tu bien? Il veut savoir tout ce qui se fait.
Et c'est le fils de Raïf Badawi qui parle. Raïf Badawi, le blogueur enfermé en Arabie Saoudite depuis 2012. La famille de Badawi a l'espoir de le voir vite sortir de prison, vœux pieux ou pas, alors que le prince Salman est à Paris. Ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde avec Clarence Rodriguez. Ce soir, nous sommes aussi à Londres, devenue plus violente que New York et à Rome pour une sombre affaire d'artichaut. 18h50, Le Monde selon Trump, saison 2, et Marco Voltaire, un clash entre deux présentateurs télé et un sondage. Quelles séries sont regardées par les démocrates ou par les républicains? Eh bien, vous le verrez tout à l'heure. 18h55, Jean-Marc Four met le monde à l'envers après la victoire d'Orban en Hongrie. Et si l'Europe se rendait à l'évidence, on ne peut pas faire sans lui et c'est comme ça. Mais avant et tout de suite, c'est au Rwanda que nous faisons une longue escale ce soir. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Scolastique Mukasonga, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
L'auteur franco-rwandaise que l'on ne présente pas, vous êtes prix Renaudot 2012, il faut le rappeler, avec Notre-Dame du Nil. Mais pas seulement, chacun de vos ouvrages témoigne de l'histoire de votre pays, le Rwanda, dont on commémore, pour ne pas l'oublier, le génocide en ce mois d'avril. Et vous allez vous parler de vous pour parler des autres, précisément, et aussi pour leur rendre hommage. Et on va y venir. Ce livre ne fait pas exception. Un si beau diplôme avec un point d'exclamation, d'ailleurs, au bout. Il est important, ce point d'exclamation, publié dans la collection Blanche de Gallimard. Et le diplôme, en effet, vous en parlez. Diplôme d'assistante sociale, d'abord. On n'est pas en train de parler d'une thèse de doctorat extrêmement complexe.
Non, c'est un soi simple diplôme, simple.
Facile. Enfin, pas si facile. Il a passé, j'entends.
Si, c'est un passeport pour la survie, au fait. C'est pour survivre. Et voilà, je vais expliquer sûrement en fonction des questions que vous allez me poser.
Et oui, absolument. Vous parlez de passeport, effectivement. Et vous dites d'ailleurs, dans une interview que j'ai retrouvée de vous, vous dites un passeport pour la survie, un moyen aussi de sauver de l'oubli ceux qui allaient plus tard tomber sous la machette. Ça sert à tellement de choses, ce diplôme, au-delà de ce qui a marqué sur ce morceau de papier.
Oui, c'est au-delà d'un morceau de papier, c'est au fait ce diplôme, cette obsession à la course d'endurance, donc pour retrouver ce diplôme qui m'échappait, que j'ai retrouvé. C'est quelque part ce diplôme, en fait, c'était le fil rouge, c'était le cordon ombilical qui me rattachait à ma famille que j'ai dû quitter à l'âge de 16 ans, parce que justement, il fallait absolument, pour mon père, il avait trouvé que c'est ce seul moyen. Il savait ce que c'est, au fait, l'école. Le diplôme, c'est l'école, au fait. Mon père avait été orphelin. Donc, il était né pendant la Grande Guerre. Et cette Grande Guerre, donc, avait provoqué des épidémies et des famines catastrophiques au Rwanda. Donc, il avait perdu toute sa famille. Il avait été sauvé par l'école. À cette époque, il n'y avait que cinq années d'école primaire où on apprenait le swahili. Il avait appris le swahili, il était devenu interprète donc de l'administration coloniale. Et c'est à partir de là, il s'est construit un statut social, il était respecté jusqu'à ce que malheureusement la discrimination de 1960 vienne tout détruire.
Et c'est ça que ça veut dire aussi, c'est pour ça qu'il veut absolument que vous alliez à l'école, votre père, parce que jusqu'à ce que vous soyez obligé de partir, vous aussi en 73, partir pour le Burundi, pour un Tutsi, pour les Tutsis que vous êtes, aller à l'école, c'était au moins la certitude pour un petit nombre d'entre eux qui pourrait rien vous arriver. En gros, que vous étiez au moins sauvé.
Exactement. Donc aujourd'hui, il est vrai que quand je traverse le Rwanda, je fais un petit détour. Ça c'est typiquement rwandais, où on fait le détour d'abord. Que je vois les publicités partout, les slogans. Une petite fille qui va à l'école, c'est le monde qui s'ouvre à elle, c'est l'avenir qui s'ouvre à elle. Il est vrai que jusqu'en 1973, donc entre 60
et 73,
quand on avait la chance de faire partie de ces 10% de quota et qu'on pouvait aller à l'école secondaire, on n'était plus ni Hutu ni Tutsi. On avait un statut particulier qu'on appelait les évolués. Alors, non seulement pour le jeune...
Le terme est terrible. Hein. les évoluer, c'est quand même terrible. Ce qui sous-entend que les autres ne le sont pas.
Ne comptez pas. Et donc, ce qui fait que pendant ce temps, dès que vous avez ce statut, non seulement le collégien, le lycéen, ou, bah, le CETERAR qu'on aille jusqu'à l'université, avait un certain respect, une certaine considération, et la famille aussi en profitait. Donc, jusqu'à ce que justement, en 73, ça ne marchait plus. Donc, on dit maintenant, on ne veut plus du tout. C'est inéréel, c'est un oubli. Tout ce qui ont pu percer, donc on doit les pourchasser et les tuer. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 6 ans, je vais aller d'exil en exil à la recherche de ce papier qui doit toujours me servir de lien, de cordon ombilical, comme je l'ai dit, avec ma famille.
Vous l'avez dit, c'est la deuxième vague d'exil, celle de 73. Il y a eu celle de 1960, il y a celle de 73. Et c'est parfois compliqué parce que vous êtes toute seule au Burundi, donc il faut prendre contact avec votre famille. C'est parfois pas facile. Et vous avez cette phrase, qu'avions-nous donc fait pour échapper à la machette pendant ces 10 dernières années?
On parle du Rwanda, c'est le place au Rwanda. C'est le place au Rwanda, donc c'est-à-dire que quelque part, nous sommes quand même dans une constellation de génocide. Mmh. Un génocide ne se fait pas comme ça spontanément. Il faut une préparation, il faut vraiment tout baliser pour que justement ça réussisse. Et malheureusement, un génocide, heureusement, un génocide, pourquoi j'ai dit malheureusement, heureusement, un génocide ne réussit jamais. Mais ça finit donc par arriver. C'est pour cela que l'obsession de mon père, par ce biais justement des diplômes, il fallait ce n'était pas vraiment pour avoir un diplôme lambda comme on a un diplôme. C'était absolument que je serais la survivante, au fait, par ce biais, parce que je ne pouvais pas. Si je n'avais pas pu avoir apprendre le français, qui pour lui c'était une langue qui me permettait de sortir du Rwanda et de pouvoir survivre, je n'allais pas pouvoir être justement la mémoire, sortir de l'oubli, ce qui allait tomber sous la machette. On ne savait pas à quel moment, mais ça finit par arriver. Et à ce moment-là, quand il va tomber sous la machette, quand il va se retrouver dans les fosses communes, il fallait que j'ai ce papier, ce passeport, ce talisman pour que justement je sois les mémoires. Et c'est ça qui m'a amené à l'écriture. S'il n'y avait pas eu le génocide au Rwanda, si je n'avais pas été survivante, si je n'avais pas passé ma vie à courir après ce diplôme, et que j'ai survécu, je n'aurais jamais, à mon sens, ça aurait été dommage, mais je n'aurais jamais écrit.
Ah, mais ça aurait été
écrit.
Dommage, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, je n'aurais jamais écrit. J'ai écrit parce que justement, mon père, il avait souhaité que j'aie le saut diplôme et que je sois les mémoires et que je ressorte de l'oubli.
Avec des moments de doute quand même, et c'est juste après l'enclenchement du génocide, vous êtes en France en 1994, donc vous l'apprenez, vous ne savez plus très bien d'ailleurs à quel moment, mais dès que j'ai su, dites-vous, j'ai su aussi que le génocide des Tutsis était enclenché. Et je n'ose me poser cette question, dites-vous, n'y avait-il pas mieux à faire que de m'entêter à courir après un bout de papier? L'espèce de moment de doute comme ça qui dit, moi j'ai couru après ce diplôme, pourquoi toute ma famille est en train de mourir? Vous avez perdu 37 membres de votre famille, ce qui est gigantesque.
C'est gigantesque parce que quand je dis 37 membres de ma famille, c'est tout ce qu'il y avait aussi. C'est vraiment les frères, les sœurs, les petits-enfants.
Donc, c'est la ville entière.
C'est toute la famille.
C'est la ville entière.
C'est tout Gitagata, mon village. Il n'y a pas eu de survivants. Donc, quand je vais chez moi, c'est la brousse. C'est pour cela que la deuxième partie, d'ailleurs, c'est sur justement ce terrain, c'est à la recherche d'une trace de la trace familiale de lieux où j'ai grandi. Donc, c'est-à-dire que je suis un être humain comme tout le monde. Il pouvait y avoir des moments de fragilité, mais au moment où j'allais être fragile, c'est vraiment ce que mon père m'avait donné et ma mère aussi, c'est que justement c'est un héritage précieux. Au moment où je pouvais tomber, j'entendais les voix. J'entendais la voix de mon père, comme je commence justement le livre en disant « Henuka, Henuka, lève-toi, lève-toi, les corps t'attend ». Donc je ne pouvais pas faillir, je ne pouvais pas trahir la confiance que les parents avaient mis en moi. Je ne pouvais pas, je ne m'appartenais pas. Quand je faisais tout ce que je faisais quelque part, ce n'était pas la scolastique Mukasonga au singulier, c'était tous ces gens pour qui justement je devais vivre et je devais faire en sorte qu'ils ne tombent pas dans l'oubli. Ce diplôme, je le dis, je suis allée le chercher. Pourquoi je voulais être assistante sociale?
Vous avez été le chercher avec les dents, ce diplôme.
Avec les dents. Ouais. Et même, vous avez vu, quand je... D'abord, je vais dire pourquoi justement, je suis choisie d'être assistante sociale. Je le dis bien dans le livre. Mmh. C'est la seule profession qui me permettait de revenir dans les villages, aux côtés des paysannes, aux côtés de ces mamies dans les champs, et surtout de mes camarades qui n'avaient pas eu la même chance de pouvoir accéder à l'école secondaire et qui, pour autant, étaient aussi doués, voire plus doués. Donc, ce savoir qu'on leur a refusé, je suis allée le chercher et je ne pouvais pas être ingrate. Je l'ai aussi apporté pour eux.
Vous l'avez apporté pour eux et il y a un passage très joli dans votre livre où vous expliquez que votre langue, la langue qui est parlée au Rwanda, le Kinyarwanda, vous ne l'avez pas appris à vos fils, par exemple. Parce qu'il ne fallait surtout pas qu'il y ait le moindre signe extérieur de Tutsi, en gros. Ils l'ont appris depuis ou pas ?
Ils apprennent aujourd'hui. Ils apprennent parce que je suis libérée, mais j'ai mis 10 ans. Hein, parce que vous ne vous débarrassez pas du jour au lendemain du statut qu'on a collé sur vous de cafard. Mmh. Pour retrouver le statut humain, il faut un long cheminement. Donc, c'est-à-dire que le Kinyarwanda était égal Tutsi. J'avais été chassée parce que je n'avais pas le droit à une identité rwandaise. Et le Kinyarwanda faisait écho à l'identité rwandaise, Tutsi. Je ne voulais pas que mes enfants soient Tutsi. Je voulais leur donner une chance. Quelque part, ça revient à ce que mon père, justement, cherchait à m'envoyer à l'école. Et quelque part, l'école, c'est quoi ? Aller apprendre une autre langue qui me permettra d'être hors la frontière du Rwanda et s'y vivre. Donc, moi aussi, je voulais que mes enfants parlent une autre langue qui ne va pas les entraîner dans la galère d'avoir une étiquette de Tutsi.
Et aujourd'hui, vous dites qu'effectivement tout ça est un très très long cheminement, bien sûr, mais cette déambulation que vous faites à la fin de votre livre, elle est très jolie. Vous êtes sur les traces de votre famille, sur les traces de votre père, mais vous êtes aussi assez scotché par Kigali quand vous le voyez finalement, en vous disant que ben il y a plein de choses qui ont changé. Vous dites, a-t-on oublié le génocide ? Est-ce qu'on est déjà même au-delà de la réconciliation ? Est-ce qu'au fond, maintenant, plus de 20 ans après, vous vous dites pas c'est plutôt réussi. Au bout du bout, c'est plutôt réussi, nous, ce qu'on a fait les Rwandais, en fait.
Oui, mais il ne fallait pas en passer par là.
Alors, on est d'accord.
On ne peut pas s'empêcher de... On ne peut pas les deux. Les deux, absolument, faut vibrer en même temps. Vous vous dites, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a avancé, mais à quelle vitesse. Je suis fière de mes compatriotes, ce qu'ils font sur place. Et moi, de mon côté, ce que je peux faire, justement, pour être solidaire avec ce qu'il faut, c'est pas l'écriture. Mais il est vrai que c'est dommage qu'il a fallu qu'on passe par une dimension aussi grave pour apprendre à se réveiller.
Et c'est marrant parce que dans la manière dont vous parlez des femmes, par exemple, vous parlez des femmes post-génocide. C'est comme ça que vous les qualifiez, en fait. Et au fond, comme si ces femmes n'avaient pu aller chercher leur indépendance, choisir leur mari, etc., que parce qu'il y a ce passé dans le pays et que c'est ce qui leur permet aujourd'hui de s'émanciper. Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez ? Est-ce que c'est ce que vous avez vu ?
La femme rwandaise a toujours été traditionnellement très forte. Dans le deuxième livre, la femme au pionnier que je décris là, le portrait de ma mère, c'est le portrait de toutes les femmes rwandaises. Mais le génocide est venu renforcer cette force et faire ressortir et mettre en valeur cette force. Les femmes pendant le génocide, malheureusement, c'est universel, c'est malheureusement, les femmes sont toujours doublement victimes.
Monsieur, le viol, l'arme de guerre.
Le viol a été, malheureusement, un supplément, une dimension. Toute forme de, comment je peux dire, de maltraitance, de barbarie et dramatique. Mais le viol et la façon dont le viol était perpétré. Je ne peux pas. Je suis j'ai été façonnée dans des écoles religieuses. J'ai une pudeur. Je ne peux pas décrire la barbarie qui a entouré ça. Mais les femmes ont lié de s'effondrer. Parce que justement, quelque part aussi, il y avait aussi le fait qu'elles n'ont pas été violées Elles ont été violées pour être données au fait une mort lente. Parce que généralement, les violées, elles devaient être porteurs du VIH. Et donc, mais au lendemain du génocide, au lieu de s'effondrer sur leur sort, il y a eu, par exemple, la création de l'association AVEGA, qui, au lieu de s'effondrer, ont participé à la construction du Rwanda.
Et il y a un symbole de tout cela, Scolastique Mukasonga, c'est cette statue que les femmes ont mise à terre. En fait, c'est une femme avec son bébé dans le dos, comme ça. Et elles disent, non, mais une statue comme ça, nous, c'est plus ça. C'est plus ce que nous sommes. La nouvelle femme au Rwanda, c'est pas ça.
C'est l'école.
Et voilà, c'est l'école.
C'est l'école. Et elles sont diplômées et c'est diplômées.
On n'en veut pas. Votre diplôme à vous, en tout cas, il est paru chez Gallimard à la collection Blanche. Ça s'appelle Un si beau diplôme. Point d'exclamation, Scolastique Mukasonga. Merci mille fois. On a été ravis de parler Rwanda avec beaucoup. Vous ce soir. Merci.
C'est très gentil.
France Inter. Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
À la suite d'un jour dans le monde, à la rencontre de la famille de Raif Badawi, le blogueur enfermé en Arabie Saoudite depuis 2012, dont la femme demande à Emmanuel Macron d'en parler au prince Ben Salman qui est en visite en France en ce moment. Elle l'a dit notamment dans les colonnes du Monde, elle le redit chez nous. À suivre aussi Florence Paracolo sous les radars de la délinquance à Londres et des artichauts à Rome. Trump, saison 2, Marco Voltaire, Marco très vite. C'est pas en regardant les séries télé qu'on distingue démocrates et républicains finalement.
Non, démocrates et républicains regardent finalement le même top 10. Tout le monde aime The Big Bang Theory. On va pas mal regarder la télé tout à l'heure et on va parler d'un clash très violent aussi entre deux présentateurs vedettes à cause d'une blague sur Melania Trump.
Allez, à tout à l'heure. Le monde à l'envers. Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Dans votre monde à l'envers à vous, en Hongrie, Viktor Orban a gagné. On a intérêt à s'y faire.
Ouais, il est nationaliste, il n'aime pas l'état de droit. Il vient d'être réélu haut la main. Il est temps que les Européennes prennent au sérieux le Hongrois Viktor Orban.
Allez, à tout de suite. Il sera 18h55. Jean-Marc, le tour du monde se poursuit avec une escale à Paris. Tiens, General Electric, bien de chez nous, comme leur nom ne l'indique pas, Never Can Get Enough.
Never can get it.
Morgan Galinov, General Electric, sur France Inter. Florence Paracuelos, sous les radars, hello.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je remercie Capillon.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Et pour commencer, Florence, Londres plus violente que New York. Et voilà que des mesures anti-criminalité ont été annoncées aujourd'hui.
50 meurtres à Londres depuis le début de l'année. Pour la première fois, le taux d'homicide de la capitale britannique dépasse celui de New York. Les deux villes ont la même taille. Il a augmenté de 40% en 3 ans à Londres. Derniers exemples en date, un jeune homme de 18 ans poignardé à mort mercredi dernier. 6 autres blessés au couteau la nuit suivante. Conseil municipal de Londres la semaine dernière. Le maire Sadiq Khan accuse.
The most immediate challenge facing our city.
Le problème le plus urgent auquel on doit faire face, c'est l'augmentation du nombre de crimes à travers le pays après des années de coupes du gouvernement dans les budgets de la police et des services de prévention. Le gouvernement refuse de voir cette réalité en face. Donc je n'ai pas d'autre choix que de prendre la décision inédite d'augmenter le budget de la police avec les impôts locaux de Londres. L'accusation de Sadiq Khan et des travaillistes semble se confirmer aujourd'hui. Un document du ministère de l'Intérieur britannique fait le lien entre les 20 000 policiers de moins depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 2010 et l'augmentation des crimes partout dans le pays et plus particulièrement à Londres. Mais ce document, la ministre de l'Intérieur ne l'a pas représenté à son compte aujourd'hui. Pas d'augmentation des effectifs de police dans ces annonces. L'accent a été mis simplement sur le contrôle des armes et de la drogue.
Florence, vous nous emmenez à Rome pour une sacrée, enfin sacrée c'est pas sûr d'ailleurs, controverse culinaire.
Les artichauts à la juive, spécialité romaine multicentenaire, sont-ils cachères?
Ora è la stagione perfetta dei carciofi, lo capiamo bene bene.
Horreur et damnation, les artichauts que sont en train de préparer cet homme dans son restaurant du vieux quartier juif de Rome ont été déclarés non cachères par le grand rabbinat d'Israël. Ces petits artichauts frits entiers, symboles de la culture juive romaine, n'auraient donc pas leur place sur les tables des croyants parce que, dit le responsable des importations du dit grand rabbinat, qui ne doit pas tellement aimer les artichauts, le cœur de l'artichaut est plein de vers et on ne peut pas le nettoyer. Et comme les vers ne sont pas cachères, l'artichaut, à son tour, ne peut pas l'être. Argument qui scandalise la communauté juive de Rome, qui n'exportera pas, tant pis, ses artichauts à Jérusalem, mais qui reste fier de ses légumes frits. Dans une vidéo, le grand rabbin de Rome et la présidente de la communauté ont présenté leurs vœux pour la Pâque en préparant les carciofi à la Giudia, qui n'ont, comme chacun sait, rien à voir avec la fougne des bronzés.
C'est quoi les petits trucs blancs, non ? Ça, c'est des vers. Ben oui, comme ça, il y a la viande aussi.
C'est ça. Voilà. Florence, mais dans les artichauts, normalement, il n'y a pas la viande.
Mais absolument. Et puis, il n'y a pas de verre dans les artichauts. Bah enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Allez, Florence, merci. Et à demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo,
Beyrouth,
France Inter.
إذا كان مما يحملون فكرا حرا على الالتفاف على النص ولعنق الأفكار كي يمرر فكره.
Elle est quelque part entre l'Arabie Saoudite et le Québec, l'escale reportage ce soir d'un jour dans le monde. L'Arabie Saoudite parce que on en parle aujourd'hui évidemment avec la visite de Mohamed Ben Salman, le Québec parce que c'est là qu'est réfugiée la femme de Raif Badawi. C'est elle qu'on entend là recevoir un prix au nom de son mari. C'était le prix Sakharov l'année dernière. Raif Badawi, blogueur saoudien enfermé depuis 2012, condamné à 10 ans de prison et à 1000 coups de fouet. Bonsoir Clarence Rodriguez.
Bonsoir Fabienne Sattès.
Clarence, vous faites partie de celles et ceux qui connaissaient le mieux l'Arabie Saoudite. Vous y avez vécu longtemps. Vous connaissez bien la famille de Raif Badawi aussi, la femme qu'on a donc entendue à l'instant. Elle a créé une tribune dans Le Monde ce week-end d'ailleurs, demandant à Emmanuel Macron de pousser pour faire libérer son mari. Je voudrais que vous nous rappeliez d'abord, juste en quelques mots, les raisons de l'enfermement, de la condamnation de Raif Badawi.
Alors vous l'avez dit, que depuis le 17 juin en fait 2012, Raif Badawi est incarcéré dans une prison près de Djeddah. Alors pour désobéissance à son père, cybercriminalité et apostasie, c'est-à-dire insulte à l'islam. Et en réalité, c'est parce qu'il a créé et animé un forum ouvert aux Saoudiens progressistes, un site très fréquenté, bien sur lequel il défendait les droits de la femme, il prônait une modernité
de l'islam.
Et alors, on reviendra justement à ce qu'il dit, ce qu'il disait, parce que c'est des choses qu'on retrouve maintenant assez étonnamment dans la bouche du prince. Vous avez rencontré la famille à Montréal, où elle vit depuis 2013. Dans quelles conditions? Comment ça se passe pour eux?
Alors, effectivement, c'est une famille qui vit à Sherbrooke, donc dans le Québec. Elle vit donc dans cette petite ville de 100 000 habitants, dans le quartier de Fleurimont, dans un appartement au troisième étage d'un petit immeuble. Et dans l'appartement, eh bien, les murs sont tapissés de photos de Raïf Badawi et de ses enfants. Tout rappelle ce mari, ce père absent. La famille est très entourée. Il y a une belle solidarité de la part des voisins. Par exemple, quand Ensa Fédard part à l'étranger pour tenter de faire libérer son époux, eh bien, c'est Chantal et Yves qui veillent sur les trois enfants, Najwa, Dodi et Myriam. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est que les enfants sont très bien intégrés. Ils parlent le français parfaitement bien, mais avec l'accent québécois.
Et on va en entendre un dans un instant. Ensaf Badawi, Clarence, estime que son mari, c'est ce qu'on disait à l'instant, prenait ce que finalement le prince fait désormais pour les femmes, d'où son espoir, son énorme espoir en fait de le voir libéré. C'est ce qu'elle vous a dit.
J'ai l'espoir de le prince Mohammed bin Salman, c'est prince jeune, il va moderniser l'Arabie Saoudite, il va changer les religions wahhabistes. J'espère.
Si je dis que vous, par exemple, Ensaf, si je dis que vous êtes la partie libre de Raïf, parce que vous êtes à l'extérieur, est-ce que vous comprenez?
Oui, une chance, moi, je suis là. Si je suis en Arabie, je n'ai pas beaucoup de chance pour oublier l'histoire de Raïf. Même ma famille, même mes frères, mes sœurs, c'est pas avec moi. Ma famille, maintenant, c'est contre moi.
Vous avez fait une croix dessus, c'est-à-dire que c'est terminé?
C'est terminé.
Et vous ne retournerez jamais en Arabie Saoudite?
Moi?
Oui.
Jamais.
Pas de retour, Clarence Rodriguez. Elle dit même « Ma famille est contre moi désormais ». À l'image du pays, est-ce que ça veut dire que non seulement le pays est indifférent au sort de Badawi, mais finalement peut-être aussi pour une part indifférent à ce que fait le prince en ce moment, les fameuses réformes, ouvertures et autres? Comment est-ce qu'il faut interpréter ça?
Mais vous savez, déjà, parler de Raïf Badawi, c'est tabou en Arabie Saoudite. On n'en parle pas, par crainte certainement, ou alors dans les sphères privées. C'est le cadet des soucis de cette population qui est déjà bien agitée et bousculée par effectivement les réformes qu'est en train de mettre en place le jeune prince Mohammed bin Salman. Et donc, en ce qui concerne Raïf Badawi, encore une fois, on n'en parle pas.
Est-ce que la volonté de transformer le pays passe, parce que c'est ce qu'elle a l'air de dire, et elle a l'air d'y croire, on écoutera son fils dans un instant qui y croit aussi, mais c'est aussi une manière de pas indisposer la famille royale, j'imagine aussi, enfin il faut y aller doucement. Est-ce qu'on croit vraiment qu'il peut se passer quelque chose autour de Raïf Badawi ou pas?
En fait, il y a un élan. Ça, c'est indéniable. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté de changer, je veux dire, dans ce pays, beaucoup de choses. Et donc, elle veut y croire. Si, elle veut y croire. Parce que, finalement, vous savez, quand on dresse un parallèle entre Raïf Badawi et le jeune prince Mohammed bin Salman, ils se ressemblent beaucoup. Ils sont trentenaires. Ils sont pères de famille. L'un de trois enfants, le MBS de quatre enfants. Ils prônent tous les deux, j'ai envie de dire, une sorte de liberté dans le pays, d'ouverture, de modernité, sauf qu'il y en a un qui est en liberté et l'autre qui est en prison.
Ce qui fait quand même une sacrée différence. Retour dans la famille Badawi, Clarence, avec le fils aîné, il s'appelle Doudi Badawi. Quel âge a-t-il?
Doudi.
Quel âge a-t-il, pardon?
Il a 14 ans.
Il a 14 ans. Il a forcément vu son père dans certaines vidéos et forcément, il en garde un souvenir fort.
C'est flou un peu, mais je me souviens que c'est sûr, je suis allée sur Internet chercher. J'ai trouvé des vidéos. On voyait pas très bien, mais je savais c'était quoi. C'est triste. C'était un choc. On ressent pas vraiment de haine.
Tu n'as pas de haine vis-à-vis des autorités saoudiennes?
Non. Parce qu'eux, ils sont habitués d'avoir le contrôle sur leur pays. C'est très normal. Et papa, il est arrivé et il a changé les idées du peuple qui allait sûrement se retourner contre les autorités. Donc, ils ont très mal réagi, mais...
Est-ce que tu sais qu'en fait, papa prônait les mêmes choses par rapport à la libre expression, les femmes qui conduisent, etc. Et en fait, il était un peu précurseur par rapport à ce que prône en ce moment le prince héritier Mohamed bin Salman.
Ouais. Ben, le prince héritier, il y a beaucoup d'espoir avec lui. Je sais qu'il va changer quelque chose. Ça, je suis sûre et certain. Je sais aussi qu'avec lui, papa va sortir. C'est une bonne personne, je le sais. Il a les mêmes idées que papa. Il faut juste qu'il fasse. Il faut juste qu'il ait assez de courage pour le faire. Il faut qu'il change le pays.
Laurie, t'arrive de temps en temps de la voir, papa, parce que de temps en temps, il peut appeler maman. C'est très court. Qu'est-ce que vous vous dites?
C'est des très brefs moments. Il dit comme... comment ça va à l'école? Ça, c'est sa première question. Est-ce que t'as des bonnes notes? Comment ta mère, va-tu bien? Mm-hmm. Qu'est-ce qui se passe à la maison? Il veut pas être en retard. Il veut savoir tout ce qui se fait. Je ressens du désespoir dans sa voix. Il veut pas nous le montrer, mais je sais que ça va pas. Je lui demande, est-ce que ça va, papa? Il me dit... Il fait un long soupir et après il me dit, il change de sujet. On sait que ça va pas. Il veut vraiment pas nous inquiéter. Avec Myriam, ça marche. Avec ma petite soeur, ça marche. Mais moi puis Najwa, ça marche pas. On sait.
Dodi Badawi, donc du haut de ses 14 ans, Clarence Rodriguez. C'est charmant de l'entendre parler avec cette pointe d'accent québécois, alors que c'est quand même un gamin qui a passé toute sa vie en Arabie Saoudite.
Oui, une grande partie, mais vous savez, il n'a pas envie de retourner non plus.
Ah bah, hein. J'imagine. Ça,
ouais, il n'a pas du tout envie.
Et alors, ce qui frappe aussi dans cette manière, à la fois très naïve comme un gamin de 14 ans, mais en même temps peut-être aussi très professionnel de ne pas accabler les autorités saoudiennes pour préserver aussi les chances de sortie de son père. Il doit y avoir de ça sous le discours, non?
Oui, c'est ça, c'est de préserver les chances donc de sortie de prison de son père. Pas de vague, en fait. Mais force est de constater que, quand bien même si on ne fait pas de vague, si vous voulez, vis-à-vis du gouvernement saoudien, il ne se passe rien. Moi, je l'ai vécu, si vous voulez. À un moment donné, il fallait rien dire sur Raif Badawi, sinon ça hypothéquait les chances de sortie. Force est de constater que, si vous voulez, 4 ans après, il est toujours en prison.
Cette visite de Mohamed Ben Salman, on en a déjà un avant-goût. On parle orchestre, on parle de Louvre, on parle de culture. Est-ce que ça veut dire, Clarence Rodriguez, qu'on oubliera les autres sujets, qu'on oubliera la Syrie, le Yémen, les armes, l'Iran, qu'on oubliera tout ça? Et donc, Raif Badawi au passage, les droits de l'homme aussi ou pas?
Ce sont tous les sujets que vous avez énumérés, ce sont des sujets qui fâchent. Ce sont des sujets qui fâchent, donc on n'est pas sûr qu'ils soient évoqués, mais on le souhaite.
Et en tout cas, on en reparlera évidemment sur France Inter. On a appris aussi que le voyage dans l'autre sens, celui d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, se ferait également très vite. Clarence Rodriguez, merci mille fois. Je rappelle que votre dernier ouvrage s'appelle « Arabie Saoudite 3.0, parole de la jeunesse saoudienne » aux éditions Éric Bonnier. Voilà, merci beaucoup.
France Inter.
I will work so hard.
Fabienne Saint-Esse.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
L'actualité en série. Le lundi, Le Monde selon Trump, Trump saison 2 et Marco Voltaire. Marco, on commence avec un clash entre deux célèbres présentateurs télé. À ma droite, Sean Hannity de Fox News. À ma gauche, Jimmy Kimmel d'ABC. Et les voilà catchant quasiment dans la boue à cause d'un trait d'humour sur l'accent de Melania Trump.
Et oui, l'histoire commence pendant les fêtes de Pâques. Jimmy Kimmel, qui présente l'un des late night shows les plus regardés aux États-Unis, passe une séquence dans laquelle on voit Melania Trump lire un extrait d'un livre pour enfants dans le jardin de la Maison Blanche.
Be clever and curious, just like a cat. Ask lots of questions about this and that.
About this and that.
This and that, voilà Jimmy Kimmel et le public qui ne peut s'empêcher de rire de l'accent de la First Lady originaire de Slovénie qui dit donc un this au lieu de this et that au lieu de that.
En même temps, nous aussi on dit this et that, enfin surtout moi d'ailleurs. Oui. Alors ça n'a pas plu du tout en tout cas à la chaîne pro-Trump Fox News.
Et non, dans la foulée, un Fox News crie au scandale. La star de la chaîne, Sean Hannity, monte au créneau dans son émission. Hannity est un ami personnel de Donald Trump. Ils avaient d'ailleurs dîné ensemble quelques jours plus tôt. Et voilà donc sa réaction.
C'est de la brutalité. Le libéral Jimmy Kimmel se moque de la First Lady pendant la chasse aux œufs. Même son accent y passe. Tu es méprisable et une honte. D'ailleurs, Monsieur Kimmel, l'anglais, c'est sa 5e langue. Toi, tu en parles combien?
Voilà.
Voilà, et depuis une semaine, c'est un déchaînement sur Twitter. Les attaques de Kimmel descendent rapidement sous la ceinture. Sean Hannity, lui, compare Kimmel à Harvey Weinstein, parce que Kimmel, qui enregistre son émission à Los Angeles, c'est un peu Hollywood, et Hollywood, pour beaucoup de pro-Trump, c'est l'ennemi. Alors hier soir, Kimmel a fini par présenter ses excuses. « Ça va trop loin, ma femme et mon enfant ont été menacés. » Sean Hannity, lui, a promis de répondre ce soir dans son émission.
Ah bah écoutez, vous nous raconterez ça. On garde quand même la main sur la zapette, Marco. On parlait la semaine dernière de Roseanne, le sitcom qui a fait un carton chez les électeurs de Trump. De là à penser donc qu'il y a des séries pour démocrates et des séries pour républicains, il n'y a qu'un pas, qu'on ne franchit pas, puisqu'au fond, ils regardent la même chose.
Oui, c'est Mythe de Presse, l'un des grands shows politiques du dimanche matin, qui en parlait hier, qui parlait d'une étude au-delà des shows politiques. Dans le top 10, en fait, vous retrouvez quasiment à trois émissions près la même chose chez tout le monde, peu importe vos affinités politiques. Tout le monde aime The Big Bang Theory, la série policière NCIS, America's Got Talent. Républicains et démocrates sont aussi fans de House Hunters. Là, c'est une télé-réalité dans laquelle on rénove sa maison.
Allez, on termine très très vite, Marco, sur le parcours de golf de Donald Trump, qui a personnellement fait féliciter le vainqueur des Masters. Et du coup, moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres à force de jouer au golf. Est-ce qu'il est bon ou pas, ce Trump ?
Question très importante, et pour les spécialistes, vous pouvez lire Golf Digest, dans lequel on apprend que le swing de Trump est imparfait, mais qu'il groove, que c'est un autodidacte, qu'il joue à l'instinct, plutôt court que trop long. Il a la confiance, celle qui ne fait qu'on ne tremble pas, la confiance tout simplement des présidents. Et c'était avec Sean Hannity d'ailleurs, vous vous souvenez, hein, le monsieur de Fox News, qu'il a joué sa toute dernière partie de golf.
Allez, Marco Voltaire et le monde selon Trump, en direct de New York. Merci beaucoup, à très vite dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Fourcq. Comme tous les jours, il n'aime pas les Européens et Bruxelles ne l'aime pas non plus. Je ne parle pas de vous, Jean-Marc, mais en Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban a donc remporté une victoire éclatante. C'était hier. Les Européens vont devoir s'y faire. Il est là, il est bien là. Il serait peut-être temps de plus contenter de le critiquer, d'essayer plutôt de comprendre ce qui se passe chez lui. C'est votre monde à l'envers du soir.
Oui, en fait, c'est tout bête. Essayons de ne pas nier la réalité. C'est un peu comme avec Trump d'ailleurs, ou avec le Brexit. Hein. Le résultat ne plaît pas aux Européens. Bah oui, sauf que le vote est là. Il est légal, il est indiscutable, ça s'appelle le monde réel. Et dans le cas d'Orban, impossible de faire un procès en légitimité, le succès est très net, 49% des voix pour son parti, le Fidesz, ce qui lui donne les deux tiers des sièges, et une avance colossale sur le deuxième, le Jobbik d'extrême droite, 20%. Est-ce que c'est une victoire par défaut grâce à l'abstention ? Pas du tout, 70% de participation en hausse de 7 points. Est-ce que c'est une victoire qui coupe le pays en morceaux géographiquement ? Pas davantage. Regardez, la carte électorale de la Hongrie, je vous la montre ici en studio, vous la retrouverez sur franceinter.fr. Vous allez me dire, bah pourquoi c'est tout orange partout ?
Oui, il y a peu de vert.
Bah parce que c'est la couleur du Fidesz. Voilà, donc il l'a emporté partout.
Et le rouge, c'est quoi le
Alors
rouge ?
Alors voilà, il y a un petit peu de rouge, c'est les socialistes, un petit peu de vert, c'est le Jobbik d'extrême droite. D'accord. Mais vous voyez, en gros, Fidesz a gagné partout, sauf dans quelques circonscriptions de Budapest. Est-ce que c'est un vote truqué ? Non plus. Quelques irrégularités ici ou là, mais rien de flagrant. Donc, réalité simple, dans ce pays de 10 millions d'habitants en Europe centrale, entre Autriche et Roumanie, le soutien à Viktor Orban est massif. Et cet homme de 54 ans, qui est à l'aube de son quatrième mandat, le troisième consécutif, est légitime. N'en déplaise aux Européens.
Alors Jean-Marc Orban déplaît aux Européens, pourquoi ? Parce qu'il prône une démocratie dure et identitaire, c'est ce qu'il appelle un État illibéral, non libéral.
Absolument, et il le revendique. C'est donc bien cela que les électeurs hongrois, librement, soutiennent en pleine connaissance de cause, c'est le monde réel. De quoi s'agit-il ? En fait, d'une remise en cause de la séparation des trois pouvoirs, telle que définie par Montesquieu. Dans l'esprit d'Orban, l'exécutif, c'est-à-dire en gros lui et son parti, décide. Le législatif, c'est-à-dire le Parlement, obtempère. Et le judiciaire obéit, surtout quand il s'agit de renoncer à des enquêtes pour corruption sur des proches du pouvoir. La presse, elle est muselée. Contrôle total de la télévision d'État. Rachat de tous les titres de presse locale par un proche du Premier ministre. Comme ça, vous imaginez la ligne éditoriale. Je ne vous fais pas un dessin. Ajoutons à ce paysage la revendication nationaliste et chrétienne. Dans le discours d'Orban, c'est d'ailleurs nouveau. Apparu avec la crise des migrants, il n'est pas fou. Pour asseoir son pouvoir, il désigne un ennemi, le milliardaire américain, juif d'origine hongroise, George Soros, qui serait à la tête d'un grand complot international organisant une invasion d'immigrés musulmans. Mélange donc de xénophobie et d'atteinte à l'état de droit, et ça séduit en Hongrie, mais aussi en Pologne, en Slovaquie, en République tchèque et à l'ouest, dans l'électorat d'extrême droite. Donc le succès d'Orban est l'inverse d'un épiphénomène. Il est au contraire révélateur d'une évolution qui touche une grande partie des droites européennes.
Et l'Europe semble médusée, impuissante.
Non seulement Bruxelles est dans le déni de réalité, mais surtout Bruxelles ne fait rien, ni carotte, ni bâton. Prenons deux exemples. Sur l'immigration, soit Budapest doit faire davantage pour accueillir les réfugiés. Mais alors il faut un solide dispositif d'accompagnement, puisque nous parlons d'un pays, la Hongrie, qui n'a jamais connu d'immigration extra-européenne, africaine ou proche-orientale. Soit elle n'accueille que peu de migrants, c'est le cas aujourd'hui, seulement 1,5% de la population totale. Mais alors on ne peut pas laisser Viktor Orban déblatérer sur une prétendue invasion musulmane. Sur l'économie, le leader hongrois surfe sur 4% de croissance, 17% de hausse des salaires en dernier, un quasi plein emploi. Il surfe tout en disant que Bruxelles laisse l'Europe de l'Est à la traîne. Ce qu'il oublie de dire, c'est que la Hongrie doit sa réussite à l'Union européenne. En proportion de son budget, c'est le pays européen le plus subventionné par Bruxelles. Donc là encore, soit carotte, l'Europe augmente encore cette aide, favorise une intégration économique plus poussée, soit bâton, l'Europe conditionne son aide au respect de l'état de droit, en gelant par exemple les avoirs des oligarques proches de Orban corrompus. Pour l'instant, Bruxelles est paralysée comme toujours par la règle de l'unanimité, ne choisit pas, reste au milieu du gué, et c'est tout bénef pour tous les Viktor Orban du continent.
Jean-Marc Four, qui met le monde à l'envers tous les soirs dans Un jour dans le monde, le 18-20, continue avec Sébastien Paour dans un instant.